Bien, nous allons donc reprendre nos discussions et nous avons le plaisir d'entendre maintenant Hassan Shahdi, qui est post-doctorant au Collège de France et qui va nous parler des systèmes traditionnels de vocalisation du Coran.
Merci, bonjour. La vocalisation dans un système graphique donné se définit par l'emploi d'un certain nombre de signes, plus ou moins homogènes, que l'on retrouve rattachés aux lettres et permettant de distinguer leur prononciation. L'étude de son histoire, quel qu'en soit le support écrit, pierre, os, toile, parchemin, papyrus, papier, relève de la paléographie. Le lecteur averti d'un manuscrit ancien, comme l'éditeur méticuleux de manuscrits coraniques, de textes arabes, médiévaux, ne peut manquer d'observer, dans le cas des manuscrits pourvus d'une ponctuation, que cette dernière est déconcertante. Qu'elle peut, pour un même texte, voire le manuscrit observé, varier d'une copie à l'autre. C'est dire que l'usage de ces signes, souvent aléatoires, va probablement de pair avec les pratiques et les habitudes d'une culture locale de l'écriture en évolution, ayant ses propres normes et valeurs. Mais c'est dire aussi combien sont nombreuses et complexes les pratiques de la ponctuation des manuscrits coraniques, et que leur analyse à partir d'un nombre restreint de manuscrits ponctués demeure insuffisante. Dans l'état actuel de nos recherches et en l'absence d'un recensement global des types de ponctuation des manuscrits, il est impossible de décrire précisément l'ensemble des signes de ponctuation employés dans les manuscrits coraniques, d'expliquer leur diversité et de proposer une typologie raisonnée des ponctuations observées. Enfin, faute de répertoire systématique des manuscrits datés et éventuellement localisés, susceptibles d'être utilisés comme une référence pour étudier l'évolution des pratiques de cette ponctuation et leur probable spécificité régionale, le fonctionnement et la logique de cette ponctuation nous restent encore largement inconnus. Je me contenterai donc de présenter ici quelques observations d'ordre général sur les pratiques de la ponctuation dans certains manuscrits du Coran de Fustat. Avant tout, j'aimerais rappeler que dans une étude antérieure, j'ai pu confronter les données relevées dans deux manuscrits coraniques, le Marcel 18, qui est conservé à la bibliothèque donc, de Saint-Pétersbourg, ainsi que l'Arabe 331 à la BNF de Paris, avec les traités les plus connus de Qira'at, donc de variante de lecture, de rasm, de graphique coranique, et de fawasil, donc c'est une discipline qui appréhende la séparation des versets. Alors, l'étude de ces traités spécifiques a eu pour but d'établir et de comprendre la méthodologie des auteurs et de déterminer les principales sources de la transmission du Coran. Elle a mis en valeur les différents examens oculaires effectués sur les masahif al-amsar de l'Empire naissant, en tentant de déterminer la valeur de cet examen visuel. Il faut particulièrement rappeler que les codex en circulation à cette époque semblent beaucoup plus nombreux que ce qu'il ne paraît, et que bon nombre d'entre eux ont probablement été écartés, voire ignorés, durant le processus de standardisation. Un des domaines abordés par ces traités n'est autre que la vocalisation du Coran, appelée « an-naqt » ou bien « ash-shakl » et plus tardivement « ad-dabt » mérite également d'être mise à l'épreuve des données empiriques contenues dans les manuscrits coraniques. Dans la description générale des manuscrits arabes, y compris pour les manuscrits coraniques, le terme « ponctuation » peut désigner plusieurs réalités différentes vu les fonctions effectives que le point a jouées au cours de l'évolution de l'écriture arabe. En premier lieu, en tant qu'artifice contribuant à jouer au cours de l'évolution de l'écriture arabe, en tant qu'artifice contribuant à la clarté de l'ordre graphique, le point appelé diacritique, souvent en forme de tiret, est employé déjà avant l'islam pour lever l'ambiguïté des homographes. Simple, il se place sur ou sous 10 lettres, le ba à titre indicatif, le jim, le ha, etc. Double, on le trouve sur ou sous 3 lettres, le ta, le ya et le qaf. Triple, il se place au-dessus de 2 lettres, le tha et le sin. Une deuxième fonction du point consiste en la notation des voyelles brèves et ce dès la seconde moitié du 1er siècle de l'islam selon les sources traditionnelles, généralement plus gros que le point diacritique et de couleurs différentes, en rouge, de celle du texte, le point voyelle est porté au-dessus, au-dessous ou devant la lettre pour indiquer respectivement la fatha, la kasra ou la dhamma. Le tanwin est indiqué par le redoublement du point. Une troisième fonction du point est d'ordre orthoépique, en couleur. Le point note la shadda et la hamza. Une quatrième fonction consiste à noter, généralement en encre de couleur également, les variantes de lecture coranique. Ces quatre fonctions du point peuvent être nominées respectivement ponctuation diacritique, vocalique, orthoépique et ponctuation des variantes de lecture coranique. Et nous verrons dans quelques instants quelques exemples. Alors, l'étude de la tradition musulmane sur la vocalisation du Coran met en évidence au moins cinq grandes étapes ayant contribué à l'évolution de la ponctuation du Coran. La première étape indique que la vocalisation du Coran aurait été commencée par Abul Aswad ad-Du'ali et, selon certaines traditions, par le compagnon Ali ibn Abi Talib, donc cousin et gendre du prophète. Ce système de référence propre au Coran est appelé Naqtul i'rab. On rapportera que la seconde étape aurait été entreprise, comme mes collègues l'ont pu souligner à plusieurs reprises durant ce colloque, par le gouverneur Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, qui aurait joué un rôle très important dans la ponctuation diacritique appelée Naqtu al-I'jam. Un autre système, un peu plus tardif, appelé Shakl al-Shi'r, attribué à Al-Khalil ibn Ahmed al-Farahidi, apporte au système d'Ad-Du'ali quelques modifications en proposant de représenter certains signes par une lettre, par exemple la shadda et le hamza, ou un trait devant la lettre pour le raum. Alors, raum consiste à prononcer rapidement une voyelle et de manière partielle. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Dans la sourate 12, la sourate Yusuf, il y a un passage, donc la ta'manna, qui se lit dans certaines variantes, la ta'manuna. Alors, il suffit de prononcer le premier noun avec la dhamma de manière vraiment partielle, ce qui donne, bon, je ne suis pas un expert, mais la ta'manuna, ta'manuna. On n'entend vraiment qu'une partie, peut-être un tiers du son. Donc, on peut observer ici, donc, alors pour les voyelles, un petit alif allongé, pour la kasra, un petit a, qui peut être également sous cette forme-là, pour la dhamma, un petit waw. Pour la shadda, donc ça va être les trois dents de la lettre shin du mot shadid. Pour le kha, ça va être la lettre kha du terme khafif. Par contre, pour le Coran, il préconise un ha. En fait, c'est que la petite tête du ha. Donc 100 points pour le Coran, et ainsi de suite, comme vous pouvez l'observer. Alors, la quatrième étape, entamée avec Abu Hatim al-Sijistani, est caractérisée par l'usage d'une terminologie grammaticale, donc la flexion casuelle, l'i'rab, pour définir les types de ponctuation. Donc il utilise al-marfou', le cas sujet, al-mansoub, le cas direct ou accusatif, al-majrour, le cas génitif. Et alors que ses prédécesseurs n'utilisaient pas cette terminologie, donc on sent bien qu'il a été influencé par l'élaboration des différentes écoles qui l'ont précédé, bien sûr, l'école Basrite et l'école Koufik. Rappelons que Abu Hatim Sijistani, parmi ses grands professeurs, il est l'Asma'i, mais il y a également Abu Ubaida, Ma'mar ibn Muthanna, donc al-Nahwi, le grammairien. Alors, la dernière étape est entreprise par Ad-Dani. Alors là, je vous ai mis deux petits exemples, mais que nous verrons tout à l'heure avec les images, dans une autre diapo, par rapport au Hamza, donc Al-Mubdel, Ibdel, accusatif, qu'il appelle lui-même Al-Muqayyada. J'aimerais rappeler toutefois que le Kitab Al-Masahif, Abi Hatim Al-Sijistani, est malheureusement perdu. J'espère qu'on pourra un jour le retrouver. J'avais pu retrouver donc, chez Brockelmann la cote. Donc à la bibliothèque de Berlin, donc j'y avais été, puis malheureusement il n'était pas présent. Donc c'était une erreur de Brockelmann. Donc à titre indicatif, si vous lisez dans Brockelmann cette référence, sachez qu'il n'est pas à Berlin. Donc ne faites pas le voyage. Donc je voudrais rappeler que c'est bien Ibn Abi Daoud, dans son ouvrage également Kitab al-Masahif, qui nous a conservé une partie, puisqu'il le cite à plusieurs reprises, et surtout concernant donc la vocalisation, il y a tout un passage, je crois, si mes souvenirs sont bons, qui doit faire à peu près 6 ou 7 pages. Alors, j'ai remarqué qu'Abu Hatim fait rarement mention des couleurs. Il ne l'a fait qu'une seule fois, c'est lorsqu'il y a une juxtaposition de deux hamzas. Par exemple, à Anta, il propose que la couleur verte représente les variantes de lecture et le rouge, le hamza, contrairement à l'école médinoise, qui le représente en jaune. Oui, bon, d'accord. Alors, il y a une autre particularité chez Abu Hatim Sijistani. Alors, pour la shadda, donc au cas sujet marfou, il nous dit pour la shadda, on met un point au-dessus. Le cas accusatif mansoub, un point au-dessous. Et le cas génitif, un point sous la lettre, pour la kasra. Donc, la règle pour Abu Hatim Sijistani est de ne pas ponctuer la kasra lorsqu'elle est évidente, à l'exception du cas de la shadda. Par exemple, le terme qutila requiert uniquement une ponctuation pour la dhamma, du fait que la kasra se lit naturellement dans ce cas de figure, parce qu'elle est en voie passive. Mais qutila, il mettra donc un point, le scribe, en tout cas il suggère au scribe de mettre un point sous le ta pour marquer la shadda. Donc si on n'a pas connaissance de cette petite distinction, on risque malheureusement de passer à côté de la lecture avec la shadda. Alors, la dernière étape est entreprise par Ad-Dani. Alors, je me suis permis d'inclure Ad-Dani dans les différentes étapes de la constitution de la vocalisation ou des systèmes de vocalisation du Coran pour la raison suivante. L'édition moderne du texte du Coran se fonde particulièrement sur les ouvrages d'Ad-Dani, pas uniquement. Il se fonde également sur les travaux de son élève, son disciple, Ibn Najah, qui a composé Mukhtasar Tabyin al-Hija, donc un ouvrage de 5 volumes où il mentionne toute la vocalisation, mais pas seulement, la graphie, et également il traite de la question des fawasil. Et surtout, c'est qu'il a un ouvrage intitulé Usul al-Dabt, donc les fondements de la vocalisation, sur lequel donc l'édition moderne se fonde. Donc la dernière étape est entreprise par Ad-Dani, qui mentionne dans son ouvrage Al-Muhkam fi Naqt al-Masahif les différents systèmes de ponctuation en vigueur en Irak, donc à Basra, à Koufa, à Sham, Al-Hijaz, et également en Andalousie. Il y fait également mention de systèmes révolus, ça c'est très intéressant, tels que le système d'Al-Qust. Al-Qust, qui est en plus un des professeurs de Shafi'i, pour revenir à votre allocution. Et donc, il mentionne donc un système qui révolue, qui est différent, voire contraire au système basrite. Je disais tout à l'heure en introduction, le système basrite, donc la dhamma, le son ou, on met un point au-dessus. Un point devant. La fatha, un point au-dessus. La kasra, un point en dessous. Et apparemment, dans le Mus'haf d'Al-Qust, la fatha est un point devant la lettre. La dhamma, un point au-dessus. Et la kasra, un point en dessous. Également, il fait mention de systèmes révolus à Médine. Avant qu'ils soient convaincus par le système basrite, ils avaient un système qui leur était propre, qui a peut-être lui-même été diffusé à d'autres endroits. Donc, il y établit dans son ouvrage Al-Muhkam fi Naqt al-Masahif une classification des couleurs employées dans les différentes provinces musulmanes en privilégiant le système médinois, tirant, d'après lui, exclusivement son origine du système basrite, qui utilisait le rouge pour la ponctuation grammaticale et le jaune pour le hamza. Et nous verrons que le jaune, pour le hamza, pardon, les différentes couleurs qui sont utilisées dans quelques instants. Rappelons que l'établissement de ces systèmes chez Ad-Dani se fonde essentiellement sur des traditions transmises, marwiyat, et très rarement ou très peu sur l'observation de manuscrits. Donc, l'intérêt primordial pour l'étude des manuscrits du Coran, et particulièrement ceux de Fustat, donc un peu plus de 300 fragments, est de confronter donc ces données empiriques aux traités spécifiques à la vocalisation coranique, qui ont conservé donc des systèmes de ponctuation qui, je crois, ne sont pas recensés et probablement inconnus des savants musulmans. Cela montre le caractère confus, voire imprécis, des systèmes traditionnels, et de constater que la province de Fustat a probablement participé au concours des provinces dans l'établissement, à l'instar du hadith, d'une tradition savante propre au Coran, à sa graphie et à sa ponctuation. Donc cette confrontation montre que les savants musulmans ont établi une liste apparemment exclusive, voire exhaustive, sans pour autant avoir pris connaissance ou observé un nombre très important de manuscrits. En d'autres termes, cela montre à quel point chez les savants musulmans, et particulièrement chez Ad-Dani, et j'ai pu le démontrer également dans mon travail de thèse, que la tradition al-riwaya est privilégiée à l'examen oculaire. Alors je souhaiterais également préciser que l'emploi des couleurs semble être une particularité locale et non la conséquence directe d'un enseignement exclusif qui tirerait son origine, comme le souligne la tradition de Basra. Alors, ici vous pouvez observer donc la ponctuation du hamza. Alors vous avez ici le terme al-fahsha que l'on retrouve dans la sourate, excusez-moi, j'ai oublié de vous mettre les sourates, pardon, dans la sourate 12. Donc on voit ici hamzat al-qat' qui est là en rouge, et ici qui est là. Donc ici, vous l'observez avant, et ici, après. Vous l'observez en haut, donc c'est une fatha, selon le système basrite, et là également. On a donc également une hamza de couleur jaune dans ce manuscrit, donc la'in, et on l'a ici de couleur verte. Alors que Dani, dans le muhkam, il n'est pas le seul, Abu Hatim Sijistani, comme je l'ai dit tout à l'heure, la couleur verte, pour eux, est la couleur de la variante de lecture, non pas du hamz. Alors, nous avons ici quelque chose de très intéressant, c'est quelques particularités donc vocaliques concernant les règles de récitation. Alors, j'ai pu relever, donc dans le manuscrit A325B, donc deux règles de récitation. Fonctionne plus. Oui. Donc, el-idram, qui consiste à contracter la lettre noun, sakina, ou le tenouin dans la lettre qui lui succède. Bon, il y a deux types d'idram chez les lecteurs, mais je vous passe les détails. Donc, vous avez ici le mot duburin. Donc, ici, on a le tenouin. Ici, il est juxtaposé, donc les deux points rouges. Et là, on a un point vert qui indique qu'il y a une règle de lecture à appliquer. Et pour être franc, Ad-Dani mentionne cette manière d'opérer. Donc ici, on a un idram, et ici, par contre, on a un irfa. C'est le même mot, duburin. Donc c'est une règle qui s'applique, alors qui consiste tout d'abord à dissimuler la lettre nun, sakina et le tenouin lorsqu'elle précède une des 15 lettres mentionnées chez les qurra, qui souvent sont évoqués dans ce vers de poésie, Sif dathana kam jada sharsun qadsama dum tayyiban zid fi tuqan dha zalima. Donc les premières lettres de chacun des termes que je viens de mentionner sont les lettres concernant l'irfa. Donc on a la même chose, donc ce qui nous donne ici duburin fa. Alors il y a quand même une petite problématique ou un petit problème, c'est que ils sont ponctués de la même couleur alors que ce sont deux règles différentes. Pour quelqu'un qui ne connaît pas la manière de lire, ça va être assez difficile. Alors également, j'ai pu relever cette particularité Alors, vous avez le mot Al-Qur'an, ce que je vous disais tout à l'heure, Abou Hatim Sijistani, pour le Hamza Al-Mubdal, d'accord, il propose de mettre un point avant l'alif et un point après l'alif, qui sont de même couleur, vert. De couleur verte, pardon. Et alors, Abou Hatim Sijistani, dans sa classification, il propose ce type de représentation pour la Hamza lorsqu'elle est en cas accusatif, mansoub. Le problème, c'est que ici le mot Qur'an, puisque un nasb, le cas accusatif ou le cas direct, doit apparaître en terminaison, non pas en milieu de mot. Donc, est-ce qu'il a voulu dire al-maftouh et non pas al-mansoub? C'est possible. Donc, on aurait donc ici, d'après les propos d'Abou Hatim Sijistani, la hamza, et ici, la voyelle de la hamza. Donc, le alif ne sert plus à rien. Dans d'autres manuscrits, on va trouver plutôt juste un point, qui peut être avant ou après, et non pas deux. Je rappelle que Dani ne fait pas mention de cette manière d'opérer et de procéder. On a la même chose pour le mot « imra'at ». Et ça pose problème, puisque le mot imra'atun n'est pas mansoub, d'une part, mais deuxièmement, il n'y a pas de hamza al-ibdal en ce sens-là. Il y a pas, personne ne lit ce passage imra'atun ou imra'atun en prolongeant également. Et on n'a pas le pluriel imrawat, c'est le terme an-nisa qu'on utilise. Alors, une deuxième particularité sur la ponctuation de l'inflexion, donc de l'imala. Alors, je vous ai donné un petit exemple. Donc, on peut retrouver, ça peut être ponctué de couleur verte, ja'ahu, ce serait ja'ahu, ou bien de couleur bleue, al-kafirin ou al-kafirin, ou peut-être, si l'on en croit la variante de Wursh, al-taqlil, qui est un son qui est produit entre le son A et un A un peu plus grave, qui donnerait le kafirin. Alors pourquoi l'avoir mis en bleu? Peut-être que c'est une autre variante ou peut-être même autre chose. Et ce qui est un petit peu curieux, alors c'est ce point vert pour indiquer l'imala, mais qui est après l'alif, qui n'est pas sous la lettre. Et ça, c'est tout un débat qu'il y a. Peut-être, c'est peut-être il y a tout un débat autour de l'imala. Est-ce que c'est la lettre alif qui est mumala, ou bien c'est la lettre qui la précède, qui est le ha, dans ce cas de figure? Bon, Abou Shama, particulièrement dans son commentaire de Shatibi, hein, donc d'un traité sur les variantes de lecture, précise que l'imala doit être effectuée sur le alif. Et on peut rencontrer, par exemple, dans certains passages coraniques, si vous prenez le verbe ra'a, la question peut se poser. Est-ce que le lecteur doit lire ré'e ou bien ra'e? Donc, si on le met sur le après le alif du hamza, c'est probablement le hamza dont il faut faire l'imala. Alors, j'aimerais rappeler, quelque chose juste avant, ou on peut le faire même pour ici, c'est que Ad-Dani, dans le Muhkam fi Naqd al-Masahif, mentionne une tradition, ou du moins, en tout cas, fait allusion à quelque chose qui est très, très intéressant. Il dit que dans les Masahif anciens, il y aurait eu, en préface du Mus'haf, une légende indiquant le nom du Qari, ou la lecture, par rapport aux différentes couleurs. Donc pour chaque couleur, on aurait eu un lecteur. Et je pense que vous avez déjà observé ici, donc on va voir ici donc la ponctuation des variantes de lecture. Donc vous avez un point vert qui est ici, donc « alayhi »,« alayhu », deux manières de réciter. Vous avez ici également, mais cette fois-ci c'est un point bleu, « alayhi »,« alayhu », qui fait peut-être référence à un lecteur. On a un point jaune. Bon, ici, on a deux variantes de lecture. Donc, la tasma'u, Oui, il y a Tousmi'u, mais la deuxième, Tousmi'u, c'est qui est en jaune. La yasma'u, as-summu du'a'a. Donc, la yasma'u, c'est la première variante de lecture. Donc, on a les deux petits traits ici pour le ya. La fatha ici, la fatha ici, la dhamma. Par contre, on a en jaune, et là, on comprend qu'il y a un système, c'est-à-dire qu'il faut suivre les couleurs pour pouvoir lire la bonne lecture, si je puis dire. Ah oui. D'accord. On a également ici un cas assez complexe où il y a plusieurs couleurs. Alors le passage c'est yuqda alayhim. Donc yuqda, vous avez ici un point vert qui indique l'imala, donc il peut se lire yuqdi. Mais ensuite on a donc alayhim, alayhum, alayhimi, alayhimu, alayhumi, alayhumu. Excusez-moi. Ce qui pose problème, c'est que je veux bien suivre le système. Donc en vert, en rouge ici, ce sera la yuqda. Ensuite, donc on suit pour le deuxième mot qui est alayhim en rouge. Donc ce lecteur lirait la yuqda alayhim. D'accord. Le second, donc en vert, on suit en vert, qui ressemblerait à la variante de Hamza à titre indicatif. La yuqda, la yuqdi alayhum. Mais par contre, pour le bleu et le jaune, j'ai pas de bleu, j'ai pas de jaune. Donc est-ce que je prends en considération le shekl, la vocalisation de base qui est le rouge, donc que ceux qui récitent en bleu et en jaune récitent la yuqda alayhimi, alayhimu, et au passage, alayhimi est une variante irrégulière, donc shadda mentionnée par Ibn Jinni dans son ouvrage Al-Muhtasab. C'est mes derniers exemples. Alors ici également quelques particularités assez curieuses. Alors, on a le soukoun en forme de lettre M. Ce n'est pas le McDonald's, hein, qui est mahyay, ici. Donc, on a le point rouge donc pour la fatha, et on a une espèce de petit M qui, à mon sens, indique l'absence en fait, de fatha, qui serait mahyay, juste un soukoun. On a également la shadda, qui est marquée par un V sous la lettre. Cette manière d'opérer est mentionnée par Ad-Dani. Et on a, alors ça, je ne sais pas ce que c'est, j'ai mis peut-être une shadda ou autre chose. Donc la shadda marquée par un losange au-dessus de la lettre, qui est peut-être fattara, bien que je n'ai pas trouvé de lecteur, ni en shadd ou autre, qui réciterait de cette manière-là. En conclusion, alors, la tradition musulmane a recensé quelques traditions locales de vocalisation qui étaient probablement en vigueur à une certaine époque, ce qui expliquerait qu'elle eût été retenue. Les données empiriques montrent que d'autres systèmes ou manières de vocaliser ont subsisté sans pour autant avoir été recensés ou voire connus des savants musulmans. L'importance d'étudier les manuscrits coraniques et de les confronter à la tradition musulmane permet de mieux cerner l'évolution de la vocalisation du Coran. L'emploi des couleurs demeure très subjectif et propre probablement à certaines régions et désigne, à mon sens, un lecteur particulier. On peut également penser que les différentes écoles de qira'at, rasm, fawasil et naqt avaient leur propre manière de faire selon des traditions locales, conformes à une lecture ou plusieurs, comme on a pu l'observer pour la yuqda alayhim. Alors que ce soit la manière écrite, d'écrire certains mots, mais encore de les lire ou de les ponctuer, cette façon d'opérer me semble répondre donc à des critères locaux. Enfin, je crois que Fustat a ponctuellement concouru à l'élaboration d'une tradition autour du Coran, mais qui a été ignorée lors de la codification des systèmes de vocalisation. Donc, à défaut d'avoir apporté une typologie raisonnée de la vocalisation du Coran, j'espère avoir montré l'étendue de la complexité de ces systèmes de vocalisation. Merci de votre écoute et de votre attention.